le privilège d'introduire maintenant l'exposé d'Alain Berthaus, que je remercie très vivement d'avoir pris l'initiative de terminer notre année au collège par cette ouverture sur la pluralité interprétative. Il nous permet aussi de sortir par son livre d'une hypothèque magnifique, mais c'est quand même une hypothèque du XXe siècle, c'est-à-dire le grand livre de Irwin Panofsky, je tiens à le citer au commencement de notre journée, « La perspective comme forme symbolique ». C'était un grand don que Panofsky nous a fait, comme toute l'école de Warburg, Kassirer notamment, mais en même temps, c'est aussi une contrainte. Donc, la lecture qu'Alain Berthaus a donnée de l'espace est absolument fondamentale. Et je viens pour finir à un autre grand mérite d'Alain Berthaus, c'est qu'il a repris une grande question médiévale dans son livre sur la décision. Parce que la décision est l'un des éléments plus inquiétants dans notre expérience. Comment formons-nous ce qui nous permet de décider? Comment nous y arrivons et pourquoi? Et au fond, il a repris la grande question médiévale du « vult velle », vouloir, vouloir. Pour vouloir, il faut vouloir, vouloir. Mais on peut continuer comme cela. Et donc, à un moment, il faut arrêter et décider. Et tout son livre est consacré à ce moment difficile de la formation de la volonté. Je pourrais dire que derrière tout cela, il y a une immense curiositas humaine qui fait aussi le plaisir de son amitié, ce besoin de se prendre soin, cura, d'autrui, de notre temps et de notre civilisation. Je le remercie infiniment.
Mesdames, Messieurs, merci de votre présence. Le titre de mon exposé est donc « La manipulation mentale des points de vue, un des fondements de la tolérance » et nous allons changer complètement de registre par rapport à l'exposé précédent, mais sur un sujet voisin. Le problème immense dont je vais donner quelques éléments seulement est que notre siècle s'ouvre sur des paradoxes concernant les progrès de certains aspects les plus importants de la vie sociale. On assiste en effet à la fois à des excès de laxisme, d'autoritarisme. La pensée libre, merveilleusement illustrée par la citation de Merleau-Ponty qui est dans le foyer de cet amphithéâtre, connaît des moyens sans précédent de s'exprimer, sur la toile par exemple. Et en même temps, se produit une montée des fanatismes. Les généreuses idées de la Déclaration des droits de l'homme du siècle des Lumières sont menacées par une tenace résurgence de la haine d'autrui. Dans tout ceci, la pluralité d'interprétations qui suppose que l'on puisse changer d'opinion et de point de vue, comme l'a remarquablement exposé notre ami et collègue Brian Stock sur le monde et sur autrui, est une notion que nous avons souhaité approfondir aujourd'hui avec vous dans le cadre de cette maison où, selon le mot de Merleau-Ponty, nous enseignons la pensée libre. C'est cette flexibilité qui est à la base de la capacité de prendre une décision contrefactuelle, c'est-à-dire de changer d'avis. Et nous allons essayer d'étudier ensemble, mais trop brièvement, pourquoi et comment la pluralité d'interprétation peut être un des fondements de la tolérance. La question est qu'au cours de l'histoire, on a utilisé des enfants pour les endoctriner, enfermer leur cerveau dans des schémas mentaux rigides qui engendrent l'intolérance, la haine, le fanatisme, même la barbarie, on pourrait dire, ou la dépendance cognitive. Nous en avons de nombreux exemples. L'enfant de la guerre, les enfants victimes de la guerre, mais aussi l'enfant qui devient bourreau, comme dans la Sierra Leone, ou des enfants de 15 ans mutilés, des paysans, enfermés dans des idées qui les conduisait à ces massacres sans raison. L'enfant endoctriné, nous en avons beaucoup d'exemples, l'apprentissage du fanatisme religieux ou politique, les jeunesses hitlériennes, Pol Pot et les Khmer Rouges, les attentats suicides, les sectes, cette manipulation en quelque sorte de l'esprit de l'enfant qui l'enferme dans des doctrines étroites. Et enfin, les risques aujourd'hui de l'enfant cybernétique, de celui qui s'enferme dans des jeux de rôle et qui, nous l'avons vu il y a déjà quelques années, et c'est en train d'être une préoccupation, peut même aller jusqu'à assassiner ou faire des violences à ses camarades. Et le défi aujourd'hui pour la physiologie, les sciences cognitives, la psychologie, la psychiatrie, est de savoir quels sont au fond ces mécanismes qui permettent cet enfermement. Une hypothèse que l'on peut formuler est que pour lutter contre l'enfermement dans un schéma mental, il faut pouvoir changer de point de vue sur le monde. C'est une évidence, ce n'est pas une hypothèse, mais il faut pour cela pouvoir manipuler les représentations et les idées. Et le professeur Jung, qui va parler demain, m'a très justement tout à l'heure indiqué, et c'est intéressant, les interfaces interdisciplinaires, l'ambiguïté de ce mot manipulation. Il m'a dit « manipuler » peut être interprété de deux façons. Donc je le mentionne maintenant parce que déjà ce colloque a provoqué chez moi cette compréhension de l'ambiguïté du terme que j'utilise. Que peuvent nous apprendre les neurosciences cognitives sur ce sujet? Il ne s'agit ici pour nous que de comprendre. Nous n'avons pas la réponse, mais on peut lancer quelques pistes. Un premier mécanisme est le caractère fondamentalement projectif de la perception. C'est une propriété remarquable, mais aussi redoutable. En effet, dans mon livre « Le sens du mouvement », j'ai résumé les données de 100 ans de neuropsychologie, de physiologie, qui montrent à quel point le cerveau fait des hypothèses sur le monde. Il projette sur le monde ses pré-perceptions, et je partage avec Jean-Pierre Changeux, par exemple, cette idée du caractère extraordinairement projectif de notre perception. Le cerveau n'attend pas d'interpréter les données du monde. Il impose des règles d'interprétation. Le monde perçu n'est pas conforme au monde vécu, nécessairement. Nous aussi, nous avons un Umwelt. Je vais donner quelques exemples sur la perception, évidemment, puisque c'est mon domaine scientifique. Ce cerveau projectif impose au monde des règles d'analyse, et c'est a priori, en ce qui concerne l'espace, en voici deux très jolis exemples. Si je vous demande est-ce que ces trois cylindres ont la même taille ou ces deux créatures ont la même taille, vous allez répondre non. Elles ont évidemment des tailles différentes, et en réalité, si vous alliez sur l'écran et que vous mesuriez la distance objective de ces deux, la hauteur de ces cylindres et de ces deux créatures, vous verriez qu'elles ont exactement sur l'écran la même taille. Et que c'est en raison du contexte géométrique que le cerveau va interpréter ces éléments comme n'ayant pas la même taille. Le cerveau impose au monde ses règles d'interprétation. Et c'est déjà depuis très longtemps que nos collègues psychologues de Ames avaient montré, dans une très jolie expérience, que si l'on met deux petites filles ayant exactement la même taille dans une chambre dont le toit est incliné, trapézoïdal, comme ceci, et qu'on regarde par un petit trou dans cette chambre, voici ce qu'on perçoit. On perçoit cette chambre comme cubique, absolument symétrique, et ces deux petites filles de taille complètement différente, tellement le cerveau impose la symétrie au monde. Le cerveau veut absolument que le monde soit symétrique et il perçoit cette chambre trapézoïdale comme cubique et va donc déformer sa perception. Ce sont donc des exemples empruntés à la perception de l'espace, mais vous comprenez que j'essaye de faire une analogie possible avec d'autres mécanismes qui imposent, qui nous permettent ou qui nous obligent à imposer au monde des interprétations. C'est ce que j'appelle, d'une certaine façon, la tyrannie de la perception. Par conséquent, si, à un moment donné du développement, et c'est un petit peu ça la thèse, on impose au cerveau des schémas d'interprétation du monde ou d'autrui, et on l'empêche d'avoir cette pluralité de points de vue, le cerveau aura tendance à préférer ces interprétations a priori. Et pourquoi y a-t-il un âge, et c'est là le thème, la proposition, la discussion que je voudrais introduire aujourd'hui, pourquoi y a-t-il un âge crucial pour cette charnière d'acquisition du changement de point de vue qui se situe entre 8 et 10 ans, 8 et 12 ans, ou 7 et 12 ans? La réponse est à chercher dans les étapes du développement des capacités de l'enfant à interagir avec autrui et de changer de point de vue. Et voici quelques exemples de quelques-unes de ces étapes de l'interaction avec autrui. Nous savons, par les données de la psychologie expérimentale et cognitive, que très tôt, l'enfant, le bébé, immédiatement, dès qu'il est né, est capable d'interagir avec autrui par des mécanismes que l'on appelle la contagion motrice. Vous voyez que ce bébé reproduit exactement les mimiques faciales de son papa. C'est une imitation, mais une imitation qui est une contagion immédiate dans laquelle l'enfant imite immédiatement. Il n'a pas vraiment de relation, c'est une imitation très, très, très précoce de l'enfant. Cette contagion motrice persiste chez nous, puisque si je me mettais à rire devant vous, vous voyez mon visage énorme en train de rire, eh bien, en très peu de temps, immédiatement, un grand nombre d'entre vous se mettraient à sourire. Mon sourire serait contagieux. Et si, au contraire, je me mettais, comme ce monsieur, à froncer les sourcils, à contracter mes corrugateurs, ici, les muscles corrugateurs, par contraste avec le sourire qui active les zygomatiques, qui ont été rendues célèbres par Raymond Devos dans son sketch sur le rire, eh bien, vous immédiatement, vous auriez par contagion motrice une impression, vous feriez un peu la même chose. Donc ces mécanismes élémentaires d'imitation restent vrais tout au long de la vie, mais ils sont très élémentaires. Ce n'est que vers 12 mois environ qu'apparaît une certaine capacité chez l'enfant d'établir des relations dans lesquelles la relation interpersonnelle a un aspect spatial. En effet, ce petit enfant montre la poupée, mais il ne se contente pas, comme le fait le bébé plus jeune, de pointer vers le bébé tout seul, comme un sujet solipsiste, diraient nos amis philosophes. Vous voyez qu'il montre le bébé à sa maman. Il établit cette triade entre... Il désigne. Et cette capacité de désigner à autrui, je, tu, il, en quelque sorte, apparaît vers un an, et c'est... le professeur De Gauss, qui malheureusement a disparu, qui a montré qu'il y avait une pathologie neurale chez l'adulte aussi, qu'il a appelée l'hétérotopoagnosie, et qui implique cette utilisation d'un référentiel par l'enfant, qui était un référentiel hétérocentré, puisqu'il pointe, mais il désigne à sa maman, il établit ce triangle, qui est sans doute un des éléments de base de la communauté, de la capacité sociale. Un autre mécanisme extrêmement important qui existe à un moindre degré chez les primates et qui se développe aussi chez l'enfant est l'attention conjointe. L'attention conjointe, comme l'illustre cette très jolie petite image, c'est un des mécanismes fondamentaux pour comprendre et partager les intentions d'autrui. Alors, un très grand nombre d'études ont été faites sur le développement de l'attention conjointe. Je n'ai pas le temps d'entrer dans toutes les théories et je ne suis pas un spécialiste du développement de l'enfant, je le précise. Nous allons entendre des spécialistes dans le courant de cette matinée et demain d'ailleurs. Mais il est intéressant de dire d'emblée que ce développement de l'apparition de l'attention conjointe qui se produit aux alentours de 12 mois, voyez, on est à 2 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, se fait en même temps que s'élabore la capacité de se représenter les intentions d'autrui, l'attention dirigée par autrui, etc. Donc toute cette apparition de la relation sociale. Et j'ai choisi cette diapositive parce qu'elle montre aussi qu'il y a deux courants très importants dans l'étude de ces phénomènes. Certains courants qui sont plus purement cognitifs disent que ces processus se développent et que l'émotion, en quelque sorte, l'affect, la valeur, n'arrive que tardivement. D'autres courants, représentés par cette partie du schéma, disent qu'en réalité, en même temps, très très tôt, dans le développement de l'enfant, le développement de l'attention à autrui intègre les aspects affectifs, et je reviendrai très brièvement à la fin de mon exposé sur ce problème de la relation entre les aspects, disons, cognitifs purs et les aspects affectifs qui sont effectivement fondamentaux dans cette affaire. Voici très rapidement une autre image qui est due à Tomasello, qui est un des grands auteurs qui étudie actuellement les problèmes d'interaction sociale, avec cette progression chez l'enfant de l'engagement réciproque au cours de l'ontogénèse, de 3 mois jusqu'à 14 mois, avec ce passage progressif d'interaction purement dyadique jusqu'à cette phase où l'enfant commence à comprendre les plans des autres et l'intention conjointe, l'attention, etc., et commence à développer donc cette capacité d'interagir avec autrui. Il est intéressant aussi de mentionner très rapidement, et peut-être que Julie Grèce reviendra sur ces questions demain, ou notre collègue Roland Jouvent, sur la relation qui a été montrée, par exemple, entre les aires activées par l'attention conjointe et les aires dont le volume est modifié chez les patients autistes. Vous savez que les patients autistes ont cette difficulté de réaliser l'attention conjointe, d'échanger les regards, et le volume du cerveau qui est modifié chez ces patients correspond aussi à ces régions qui sont impliquées dans l'attention conjointe. Je ne peux que faire une toute petite image de ces études. Il y a aujourd'hui des études extrêmement intéressantes sur les bases neurales de ces mécanismes. Mais l'attention conjointe n'est pas encore une manipulation de point de vue. La capacité de changer de point de vue n'apparaît que plus tardivement. Et l'hypothèse, c'est qu'en fait, que je voudrais vous proposer, et qu'elle n'apparaît en même temps que la capacité de manipuler le point de vue spatial. Et j'ai donc proposé une importance, une théorie spatiale de l'empathie, c'est-à-dire une importance du rôle de ces mécanismes dans l'empathie. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Pourquoi associer l'espace ? Eh bien parce que précisément, Piaget avait montré, par l'expérience dite des trois montagnes, que c'est vers 7-8 ans que l'enfant est capable d'imaginer les différents points de vue de façon différenciée. Il avait réalisé une petite maquette avec des montagnes. Il avait une liste de photos de ces montagnes qui étaient prises de différents points de vue, comme vous pourriez avoir différentes images de cette salle. Et il baladait, il déplaçait une petite poupée à différents endroits autour de la montagne en associant des images et en demandant à l'enfant « Est-ce que la poupée voit l'image, voit la montagne de ce point de vue, de cette façon-là » Et il a montré que cette capacité pour l'enfant de manipuler les points de vue spatiaux apparaissait en particulier à 7-8 ans, et ceci correspond à toute une théorie extrêmement complexe que je ne fais qu'évoquer ici, sur les stades de développement de la pensée spatiale qui a été développée par Piaget et Inalder dans leur livre de 1947, où, et je résume vraiment très succinctement, une première période jusqu'à 4 mois est caractérisée par une non-coordination des divers espaces sensoriels, seules les propriétés topologiques sont apparentes. Dans une deuxième période de 4,5 à 12 mois, et on retrouve cette date d'un an, la décentration perceptive de cette période est apparaît. Une troisième période à 2 ans permet les changements de point de vue qui apparaissent mais de façon fragmentée, et dit Piaget, ce n'est que vers 7-8 ans qu'un espace intellectuel sera construit capable de l'emporter définitivement sur l'espace perceptible et de permettre une manipulation des points de vue qui n'est pas simplement spatiale mais qui en fait associe aussi toute une série de mécanismes de représentation et même sémantiques. Alors, en quoi, pardonnez-moi cette diapo décalée, en quoi tout ceci concerne le problème du renfermement dans des schémas mentaux? Eh bien, parce que je voudrais rappeler la littérature qui date des Grecs sur le fait que nous utilisons des espaces mentaux dans les opérations cognitives les plus complexes, et je vous réfère aux livres magnifiques de Yates, de Carruthers, de Jonathan Spence, sur l'utilisation que fait l'homme en particulier de ses palais mentaux, de ses échelles, des arbres, pour non seulement stocker, mémoriser des éléments, des concepts, des objets, mais aussi, comme l'a dit Marie Carruthers, pour trouver des combinaisons nouvelles. Elle disait même que les curés au Moyen-Âge utilisaient ces palais mentaux pour stocker des versets de la Bible et trouver chaque semaine un sermon différent. Cette utilisation des chemins mentaux dans des palais mentaux, de l'espace en quelque sorte, pour notre pensée, et cette capacité de manipuler ces chemins mentaux, vous voyez, c'est là l'ambiguïté du mot manipuler, merci Monsieur Jung d'avoir attiré mon attention sur cette chose, est à la base de notre capacité en quelque sorte de réfléchir. L'hypothèse est que l'enfant, lorsqu'il a été dans cette période critique de 7 à 10 ans, enfermé en quelque sorte, lorsqu'on a bloqué ses capacités à élaborer des stratégies cognitives variées, prisonnier de ses schémas mentaux, et comme une personne enfermée dans un labyrinthe avec un seul chemin, une seule sortie et une seule vision du monde. Et par conséquent, pour sortir du chemin mental tracé par le conditionnement, il faut que l'enfant fasse une opération de décentrage nécessaire pour passer, et là j'emploie une terminologie qui est évidemment une terminologie professionnelle, un jargon de physiologie, d'une perception égocentrée à une perception allocentrée. Et je vais donner un détail là-dessus dans un instant. Il faut que l'enfant fasse une opération semblable à celle que l'on doit faire pour trouver un raccourci dans Venise et inhiber éventuellement le chemin habituel, et nous entendrons Olivier Houdet nous dire tout à l'heure à quel point il est important dans le développement de l'enfant, pour assurer la capacité de trouver des chemins ou des solutions nouvelles, d'inhiber éventuellement des stratégies cognitives automatiques. Et je vous donne un exemple de ce que nous entendons par égocentré et allocentré, pour ceux qui ne sont pas habitués à cette terminologie. Je peux vous demander de vous rappeler le chemin depuis l'entrée du collège de deux façons. Vous pouvez vous rappeler votre chemin par une stratégie cognitive de route, égocentré, topokinesthésique, c'est-à-dire en vous rappelant vos mouvements, vous avez traversé la cour, vous avez tourné à droite, vous êtes descendu un escalier, vous avez rencontré des objets, c'est la mémoire épisodique, vous avez rencontré quelqu'un, il est arrivé un événement, c'est cette mémoire séquentielle des actions. Et puis, vous pourriez aussi avoir une carte du collège, alors il faudrait qu'elle soit en 3D ici, et vous pourriez vous rappeler votre chemin, ou comme on le fait dans Paris, en vous décentrant avec une stratégie de survol sur une carte, en quelque sorte. C'est une stratégie que nous appelons allocentrée, topographique, qui est indépendante de votre vécu, de votre perception. Et ce passage nécessaire pour manipuler les points de vue, pour être capable de changer de point de vue, comme par exemple retrouver un chemin différent, changer de perspective, Carlo Ossola et Brian Stock ont utilisé ce mot dans leurs deux interventions, suppose ce changement de stratégie. Et beaucoup de travaux depuis quelques années sont consacrés à ces questions. Nous savons maintenant, par exemple, que lorsque nous utilisons pour nous rappeler un chemin ou résoudre des problèmes de relations spatiales, on active des réseaux qui sont des réseaux pariétaux, qui vont du cortex pariétal ici, qui est le cortex qui traite l'information sur l'espace à partir des sens, vers des aires frontales, des réseaux pariétaux frontaux, qui sont responsables de notre perception égocentrée, en quelque sorte, de l'espace. Par exemple, des patients qui ont des lésions du cortex pariétal droit négligent la moitié de l'espace, ont des troubles de cette perception égocentrée de l'espace. Et par contre, lorsque on demande des manipulations allocentrées, eh bien, c'est en partie les mêmes régions, mais c'est aussi d'autres régions, comme l'hippocampe, etc., qui sont impliquées dans des codages allocentrés qui interviennent. Donc ces deux stratégies cognitives, pour vous rappeler le chemin depuis l'entrée du collège jusqu'ici, font intervenir des systèmes dans le cerveau qui sont différents. Et par conséquent, passer de l'un à l'autre au cours du développement suppose toute une évolution du cerveau, et en particulier l'apparition de mécanismes de prise de décision, d'inhibition de comportement qui impliquent le cortex préfrontal. Et je n'ai pas le temps, bien sûr, d'entrer dans ces détails. Il y a aussi de très grandes différences entre chacun d'entre nous. Nous avons des façons différentes, c'est la vicariance, de résoudre ces problèmes. Et il y a aussi de très grandes différences entre les garçons et les filles, entre les sexes, entre les hommes et les femmes, dans des tâches, par exemple, de navigation, de mémoire spatiale. Eh bien, on trouve chez les femmes, dit cet article paru dans l'année 2000, une plus grande utilisation de ces circuits pariétaux frontaux, égocentrés. Chez les hommes, une préférence éventuellement pour l'utilisation des cartes. C'est un sujet qui n'était pas très politiquement correct il y a quelques années, mais qui est devenu un sujet extrêmement important aujourd'hui, en raison en particulier du fait qu'un certain nombre de maladies psychiatriques ne sont pas répartis également chez les garçons et les filles, comme l'anxiété spatiale et d'autres déficits comme ça, et que ceci a une implication, évidemment, sur l'éducation. Nous avons aussi des outils aujourd'hui pour étudier plus particulièrement cette question du rôle des mécanismes spatiaux dans le changement de point de vue. Et voici un exemple d'une expérience que nous faisons au laboratoire, que nous avons fait au laboratoire, en collaboration avec des neurologues, des neuropsychologues, des psychologues en IRM, et qui consiste à regarder la manipulation spatiale de point de vue. On présente au sujet dans une villa, qui en fait était une villa de Le Corbusier, un environnement, une lampe. C'est donc un objet quelque part, object in place, disons en anglais, et on dit au sujet: nous allons vous montrer cette pièce avec cette lampe qui est là d'un autre point de vue, un petit peu comme si je vous montrais une photo de cette pièce et de ces chaises en prenant une photo d'un autre endroit. Et je vous dis, nous allons vous montrer cette lampe du point de vue de l'avatar. Et vous allez devoir dire si le point de vue sous lequel je vais vous montrer la lampe est bien le point de vue de l'avatar. Je vais vous faire l'expérience, de façon à ce que vous le sentiez, voilà. Dans la prochaine diapositive, je vais vous montrer cette lampe du point de vue de l'avatar. La raison de faire cette expérience, c'est que nous pensons que déjà maintenant, vous êtes en train de vous mettre à la place de l'avatar. Vous êtes en train de faire une espèce de rotation mentale de votre corps pour vous mettre à sa place. Je ne vous demande pas encore de dire s'il souffre ou s'il est content, mais en tout cas, quel est son point de vue sur l'espace ? Voici l'image suivante, et vous allez dire si elle est prise du point de vue de l'avatar, oui ou non.
Normalement, les dames doivent hésiter un tout petit peu plus que les messieurs si les psychologues ont raison et qu'elles ont du mal à faire des manipulations mentales de l'espace. Mais on recommence. 1, 2, voilà. Alors, ce type d'expérience permet d'identifier dans le cerveau les structures qui sont impliquées dans cette manipulation mentale des points de vue et, au cours de du développement de l'enfant, de voir éventuellement comment elles se mettent en place. Et je voulais citer, pour terminer, cet exposé rapidement, un certain nombre d'études qui ont été faites récemment, notamment celle de Jean de Setti, qui a étudié les bases neurales de ces changements de perspective, de la perspective à la première personne, à la perspective à la deuxième personne. Vous voyez que ce n'est pas les mêmes circuits du cerveau. Et donc, on a maintenant des outils pour regarder le développement. Et ceci nous permet aujourd'hui de proposer des théories, par exemple, sur l'empathie. Et avec Gérard Jorland, nous avons réuni ici un séminaire très interdisciplinaire il y a quelques années, avec d'anthropologues et autres, pour réfléchir à cette question de l'empathie. En effet, il y a une grande différence entre la sympathie. La sympathie, pour nous, c'est éprouver l'émotion d'autrui en restant soi-même. C'est rester dans un point de vue égocentré. C'est-à-dire que si vous êtes triste, je suis triste. Si vous êtes content de mon exposé, bien éventuellement, je suis content, mais je reste à ma place. Je ne fais pas de manipulation spatiale ou de mon point de vue. L'empathie, telle qu'elle a été définie par les grands philosophes allemands et telle qu'elle peut être réfléchie aujourd'hui, serait éprouver l'émotion d'autrui en se mettant à sa place, c'est-à-dire en changeant de point de vue, comme vous l'avez fait tout à l'heure avec l'avatar que je vous ai montré, la petite poupée, tout en restant soi-même, c'est d'adopter un point de vue égocentré, mais en ayant fait une manipulation allocentré. L'empathie utilise donc les mêmes mécanismes que le changement de point de vue spatial. C'est un processus dynamique qui exige que nous nous dédoublions, que nous utilisions un espèce de corps virtuel pour nous mettre à la place de l'autre. C'est un très grand défi. Nous n'en comprenons pas encore les mécanismes parce qu'en même temps, il faut que je puisse éprouver l'émotion d'autrui, mais m'en dégager. Si je vois quelqu'un qui souffre profondément et que je veux l'aider, ça n'a pas beaucoup d'intérêt que je me mette à souffrir autant que lui. Il faut que je puisse à la fois être à sa place, voir le monde à sa place et pouvoir inhiber et me dégager de cette souffrance. Et Jean de Setti a fait une proposition récente, je dis ça pour les gens qui souhaiteraient lire ces articles extrêmement importants de Jean de Setti, qui est malheureusement parti à Chicago, sur les différentes composantes de l'empathie. Et je vous recommande la lecture notamment de ces articles de Setti et Jackson pour résumer. Et je termine par 3 diapos pour dire que je viens de parler principalement des aspects cognitifs de cette manipulation, ou de ce que j'appelle manipulation, des points de vue, de cette capacité pour faire la pluralité d'interprétation, de changer de point de vue sur le monde. Mais il y a bien sûr toutes les neurosciences cognitives actuellement qui s'intéressent au cerveau des émotions. En effet, tous les traitements cognitifs qui peuvent être faits dans le cerveau cognitif sont accompagnés par des traitements dans des structures comme l'amygdale, qui est la structure de base qui attribue à l'environnement, à autrui, des qualités, dangereux, aimables, etc. Et puis, une grande littérature aussi sur des structures du cortex frontal, et en particulier le cortex orbitofrontal, qui, comme vous le voyez, est ici et se développe tardivement chez l'enfant, et qui est une structure extrêmement importante, car elle est une structure qui permet justement de changer de point de vue, qui permet de prendre des décisions contrefactuelles en association avec d'autres structures comme le cortex singulaire intérieur, etc. Donc il y a actuellement toute une physiologie intéressante sur la confrontation de ces différents mécanismes avec des études sur la perception de la douleur. Et je termine par un exemple que j'aime beaucoup, qui est le syndrome de Capgras. Un enfant fait du vélo, tombe sur la tête, il est emmené à l'hôpital, il rentre à la maison et il dit à son père, tu n'es pas mon père, tu es un imposteur, tu ressembles à mon père. Et il y a beaucoup d'explications qui ont été données de ce syndrome. Certaines sont ressortent de des théories psychanalytiques. Aujourd'hui, les neurosciences proposent une explication sur cette difficulté qu'a l'enfant de reconnaître son père. C'est que tous les mécanismes d'identification qui sont de la personnalité du père, qui sont faits dans le lobe temporal, dans la manipulation des points de vue, etc., et qui normalement sont associés avec l'analyse par le cerveau des émotions des qualités affectives du père, sont perturbés, et la liaison entre l'identification, l'identité du père donnée sur une carte d'identité, et son identité affective n'est plus faite. Il y a donc une dissociation fonctionnelle qui fait que l'enfant dit « mais tu ressembles à mon père, mais tu n'es pas mon père ». Donc, vous voyez qu'on est dans un moment où, sans avoir de réponse à cette immense question de la pluralité interprétative, les neurosciences cognitives commencent à s'intéresser à cela, et on voit apparaître des études aussi de psychologie sociale. Ces données ne sont qu'une toute petite piste pour mieux comprendre pourquoi un enfant est particulièrement accessible à un enfermement dans un schéma mental autour de ces âges-là. C'est peut-être ce que j'appellerais une période critique cognitive pour les relations sociales. Et il faut à cet âge leur donner les moyens de changer de point de vue pour apprendre la tolérance. Je vous remercie.